Kairoua, Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous et à toutes. Le Monde aujourd'hui, édition du vendredi 21 octobre 2016. En direct de Washington, Idrissa Sidoulia et Anne Albertson. Tout d'abord, les titres.
Au Niger, le ministre de l'Intérieur souligne des défaillances après la récente attaque djihadiste à Tazalit.
En Côte d'Ivoire, des leaders de l'opposition interpellés hier ont été relâchés.
L'Afrique du Sud va se retirer de la Cour pénale internationale, annonce l'agence Reuters.
Les forces irakiennes parties à la reconquête de Mossoul progressent plus vite que prévu vers la ville, a assuré hier le Premier ministre Haider al-Abadi.
Le président Barack Obama a accusé hier le candidat républicain Donald Trump de saper la démocratie américaine.
Et justement, ne manquez pas notre segment quotidien sur la présidentielle américaine, sans oublier la page sport ainsi que la Minute Éco. Pour l'instant, le journal.
Le ministre nigérien de l'Intérieur, Mohamed Bazoum, a souligné hier des défaillances après l'attaque djihadiste qui a coûté la vie à 22 soldats début octobre à Tazalit, dans la région de Tawa. Les précisions de John Lyndon.
Mohamed Bazoum a visité les trois abris où les militaires ont été tués ainsi que le nouveau dispositif sécuritaire renforcé autour du camp des réfugiés. Il a déclaré devant des habitants à Tazalit, des représentants des réfugiés et des chefs militaires que la célérité avec laquelle l'attaque a été exécutée indique que ceux qui sont venus étaient bien informés sur les habitudes, les comportements de la garde, des habitants du camp. Le lieu était repéré à l'avance. L'action a été rapide. Il y a donc eu des défaillances, a déclaré le ministre nigérian de l'Intérieur. Pour Mohamed Bazoum, c'est la preuve qu'il n'y a pas eu de vigilance de la part de tout le monde, des soldats, des réfugiés et des habitants de Tazalit. Pour prévenir ce genre d'attaque, il a promis d'associer autochtones et réfugiés afin qu'ils fournissent le renseignement nécessaire aux forces de défense et de sécurité. Pour prévenir ce genre d'attaque, il a promis d'associer autochtones et réfugiés afin qu'ils fournissent le renseignement nécessaire aux forces de défense et de sécurité. Une attaque a été repoussée cette semaine contre la prison de haute sécurité de Kutukale où sont gardés plusieurs djihadistes. Et un citoyen américain travaillant dans l'humanitaire a été kidnappé la semaine d'avant dans la région de Tao.
En Côte d'Ivoire, des leaders de l'opposition interpellés hier ont été relâchés. Ils manifestaient contre le projet de nouvelle constitution qui sera soumis à un référendum à la fin du mois. Des précisions d'Éric Manirakiza.
Ils ont été libérés hier, peu après leur interpellation dans l'après-midi. Mais ces opposants ne désarmaient pas pour autant. Regroupés dans le front du refus, ils ont souligné que le mot d'ordre est maintenu. Daniel Boni Claveri a appelé à un gigantesque meeting samedi à Yopougon, un quartier populaire d'Abidjan. Mamadou Koulibaly, ancien président de l'Assemblée nationale, à peine relâché, a répété « Nous ne voulons pas de cette constitution », brandissant la menace de désobéissance civile. Ses opposants réclament le retrait pur et simple du projet de constitution. Ils accusent le président Alassane Ouattara de provoquer un projet de désaccord et de rupture sociale. Vendredi dernier, une autre coalition de l'opposition avait annoncé qu'elle boycotterait le référendum.
Les autorités éthiopiennes ont procédé à l'arrestation de plus de 1 500 personnes depuis l'instauration de l'état d'urgence le 9 octobre, à la suite de la flambée de violence qui avait secoué le pays. Anastasie Tudiech.
Selon le poste de commandement instauré pour l'état d'urgence, 1120 personnes ont été arrêtées au sud de la capitale Addis Abeba, 302 dans la ville de Gouji et 110 autour de Kelem Wolega. Selon les autorités, des centaines d'armes ont aussi été saisies. Toutes ces villes sont dans la région Oromo, où a débuté en novembre 2015 la contestation qui s'est étendue à la région Amara, où il y a eu aussi de nombreuses arrestations. Les Oromo et les Amara sont les ethnies majoritaires et contestent la domination sans partage du pouvoir depuis 25 ans par les Tigréens. La répression aurait fait des centaines de morts. Dans le cadre de l'état d'urgence, des restrictions strictes aux déplacements sont imposées. Il est aussi interdit de consulter certains médias d'opposition basés à l'étranger. Un couvre-feu est instauré autour de certaines usines, fermes agricoles et institutions. Plusieurs entreprises étrangères ont été attaquées par les manifestants ces dernières semaines.
Les dirigeants des 28 pays de l'Union européenne veulent diminuer les arrivées et accélérer les renvois de migrants africains irréguliers grâce à des pactes avec certains pays africains. Nani Talani.
Les dirigeants de l'Union européenne, réunis hier en sommet à Bruxelles, cherchent à conclure des pactes migratoires avec 5 pays africains, dont le Niger, le Nigeria, l'Éthiopie, le Mali et le Sénégal. Pour la chef de la diplomatie européenne, Federica Mogherini, il faut faire plus d'efforts pour réduire le nombre de migrants irréguliers en provenance d'Afrique et améliorer les taux de retour de personnes ne pouvant prétendre au statut de réfugiés en Europe. Selon elle, les pactes doivent être gagnant-gagnant pour aider les pays africains à créer des emplois et éviter que la migration soit la seule perspective pour leurs citoyens. Madame Mogherini devra présenter en décembre à un prochain sommet les premiers résultats en termes d'arrivée et de retour. Il faudra être prêt avant le printemps, période traditionnelle de reprise des périlleuses traversées de la Méditerranée. La route migratoire via les côtes libyennes ne faiblit pas. Depuis le début de l'année, l'Italie a vu arriver sur ses côtes plus de 142 000 migrants.
L'Afrique du Sud va se retirer de la Cour pénale internationale. C'est du moins ce qu'annonce l'agence Reuters, qui dit avoir consulté un document adressé par le gouvernement sud-africain aux Nations Unies. Des détails avec Jean-Roger Bion.
Oui, d'après Reuters, ce courrier daté du 19 octobre est signé de la ministre sud-africaine des Relations internationales et de la coopération, Maître Nkwana Mashabane. Un porte-parole de l'ONU a refusé d'en confirmer la réception, signale Reuters, mais il y est écrit que la République d'Afrique du Sud a conclu que ses obligations au regard de la résolution pacifique des conflits étaient parfois incompatibles avec l'interprétation donnée par la Cour pénale internationale. Fin de citation. L'Afrique du Sud avait exprimé il y a un an l'intention de quitter la CPI après les critiques émises à son encontre pour ne pas avoir exécuté un mandat d'arrêt lancé contre le président soudanais Omar Hassan al-Béchir, accusé de génocide et de crimes de guerre lors d'une visite de ce dernier en 2015. Plusieurs pays africains reprochent aussi à cette instance, créée par le traité de Rome en 1998, de concentrer essentiellement ses efforts sur l'Afrique. Le Burundi est le premier pays à quitter la CPI après un vote en ce sens de son Parlement la semaine dernière. Le président burundais Pierre Nkurunziza a confirmé cette décision par décret mardi, mais l'ONU n'a pas encore reçu la notification officielle.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
En Irak, des combattants kurdes ont lancé l'assaut sur plusieurs villages tenus par le groupe État islamique autour de Mossoul. Et les forces irakiennes progressent plus vite que prévu vers Mossoul, a assuré hier le premier ministre irakien Haider al-Abadi, au quatrième jour de la vaste offensive lancée pour reprendre la deuxième ville d'Irak aux djihadistes. Un soldat américain blessé dans l'explosion d'une bombe artisanale est décédé, a indiqué le Pentagone sans préciser s'il faisait partie des hommes encadrant les forces irakiennes et kurdes.
Syrie, l'Union européenne a fermement condamné hier soir les atrocités commises par le régime syrien et son allié russe à Alep. Elle a souligné que toutes les options disponibles étaient envisagées si ces attaques se poursuivent, selon les conclusions adoptées par les 28. Mais contrairement au projet consulté auparavant par l'AFP, le texte final ne mentionne plus le recours possible à des mesures restrictives, c'est-à-dire des sanctions complémentaires visant des soutiens du régime de Damas.
La pause humanitaire décrétée par Moscou dans la ville syrienne d'Alep est entrée en vigueur, mais presque aucun habitant des quartiers rebelles n'avait emprunté les couloirs établis pour évacuer les civils et les rebelles. La durée de cette trêve de 11 heures par jour, instaurée jeudi, reste confuse. Moscou a annoncé une prolongation de 24 heures, soit jusqu'à vendredi soir, tandis que l'ONU affirmait que la Russie la maintiendrait jusqu'à samedi soir.
La coalition militaire arabe intervenant au Yémen accuse les rebelles chiites houthis de violer systématiquement par des tirs de mortier en territoire saoudien la trêve de 72 heures, entrée en vigueur sous pression internationale mercredi soir. Ces tirs, selon un porte-parole saoudien, ont obligé les forces de la coalition qui agissent au Yémen en soutien au président Abdrabo Mansour Hadi et contre les houthis à riposter.
Un juge argentin a réclamé hier à l'Irak, où il se trouve, l'extradition de l'ex-ministre iranien des Affaires étrangères, Ali Akbar Velayati. Il fait partie des dirigeants ou ex-dirigeants iraniens, dont l'ancien président Akbar Hashemi Rafsanjani, accusé par l'Argentine d'un attentat antisémite le 18 juillet 1994 à Buenos Aires. L'attentat avait fait 85 morts et 300 blessés. M. Velayati est aujourd'hui conseiller diplomatique du guide suprême iranien Ali Khamenei.
Présidentielle américaine, le président Barack Obama a accusé jeudi Donald Trump de saper la démocratie américaine, alors que le candidat républicain souffle le chaud et le froid sur la façon dont il accueillera le verdict des urnes le 8 novembre. Nous reviendrons sur la présidentielle dans la deuxième partie de cette édition. Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Écho, John Linden.
Le président de l'ABAD, la Banque africaine de développement Akin Goumi Adesina, et le ministre sénégalais des Finances Amadou Ba ont signé à Abidjan un accord de prêt d'un montant de 28 milliards de francs CFA destiné à la première phase du programme d'appui aux réformes du développement local. La Banque européenne d'investissement s'installe au Cameroun. Selon le Financial Afrique, la BEI, dont l'activité est axée à plus de 90% sur l'Europe, a ouvert un bureau régional à Yaoundé. Cette représentation permettra à l'institution financière de renforcer l'appui européen aux grands projets d'investissement, aussi bien au Cameroun que dans la région Afrique centrale. L'économie libyenne est en déclin au cœur du marasme, l'or noir qui fournit au pays plus de 95% de ses revenus. Les revenus du secteur sont tombés à leur plus bas niveau historique, à peine 2 milliards de dollars pendant les 7 premiers mois de l'année, selon la Banque mondiale. Avant la révolution de 2011, la vente du brut rapportait 50 milliards de dollars par an à la Libye, qui produisait alors 1,6 million de barils par jour, contre 335 000 barils jour au premier semestre de cette année.
À présent, les sports avec Nicolas Pineau. Nicolas, bonjour.
Bonjour Idrissa.
Nouveau classement FIFA, le Brésil a le sourire.
Oui, le pays Oriverde est monté hier sur la troisième marche du podium, juste derrière l'Allemagne, championne du monde, et l'Argentine qui reste numéro un malgré ses déboires. On rappelle que le Brésil de Tite a poursuivi son sans-faute avec deux victoires lors des éliminatoires de la Coupe du Monde. 5-0 face à la Bolivie et 2-0 contre le Venezuela. L'Espagne effectue quant à elle son retour dans le top 10 en éjectant le Pays de Galles. La Russie, en revanche, pays organisateur de la prochaine Coupe du Monde, pointe au 53e rang après avoir perdu 15 places. On fait le point également sur la zone Afrique. La Côte d'Ivoire reste le premier pays africain, 31e. Mais quelques changements à noter, notamment le Sénégal qui gagne 7 places. Les Lions de la Teranga qui doublent l'Algérie, 35e. Alors que la Tunisie revient également fort, plus 4 places, les Tunisiens 38e. On rappelle que ces trois pays seront dans la même poule lors de la prochaine CAN. La République démocratique du Congo est 49e, plus 2 places, la RDC qui réintègre le top 50, tandis que le Cameroun reste 59e, tout comme le Maroc 60e et l'Afrique du Sud 62e.
Thomas Touré, indisponible, plusieurs mois d'absence avec Bordeaux.
Oui, l'attaquant international ivoirien de Bordeaux, sérieusement touché aux ischios au janvier, devra se faire opérer avec un éloignement des terrains pendant plusieurs mois. C'est ce qu'a indiqué son entraîneur Jocelyn Gourvennec. L'international ivoirien, une sélection âgée de 22 ans, a disputé 6 matchs cette saison en Ligue 1.
Rudy Garcia, nommé entraîneur de Marseille.
Oui, Rudy Garcia a été nommé entraîneur de Marseille en remplacement de Frank Passy quelques jours après l'officialisation de la vente du club à l'homme d'affaires américain Frank McCourt, l'ex-technicien de Lille, auteur d'un doublé championnat Coupe de France en 2011, mais également de l'AS Rome. Eh bien, Rudy Garcia sera sur le banc dès dimanche au Parc des Princes pour le Classico face au Paris Saint-Germain.
Tennis, Kerber assurée de finir l'année à la première place mondiale.
L'Allemande Angelique Kerber est assurée de terminer la saison à la première place mondiale, quels que soient les résultats des derniers tournois. Kerber, 28 ans, succède à Serena Williams, distinguée les trois années précédentes. L'Allemande a détrôné l'Américaine à l'US Open en septembre. Elle avait gagné à New York le deuxième trophée majeur de sa carrière, après l'Open d'Australie. La gauchère a aussi joué la finale de Wimbledon et celle des Jeux Olympiques de Rio. Angelique Kerber a également remporté le tournoi de Stuttgart. Son bilan cette année, 59 victoires pour 17 défaites.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
En votre compagnie, Idrissa Sédoudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Nous revenons sur le retour éventuel du Maroc au sein de l'Union africaine. L'Union africaine qu'il avait quittée, quand elle s'appelait l'Organisation de l'Unité africaine, à cause de l'affaire du Polisario et de la RASD et du Sahara occidental. Selon Mustapha Tossa, journaliste et politologue, le Maroc veut revenir, mais il veut aussi préparer les conditions confortables, cohérentes, logique et politiquement pertinente pour son retour. On l'écoute au micro d'Arzuma Compaoré. Il commence avec la tournée africaine du roi Mohamed VI en Afrique, donc à commencer par le Rwanda.
Ce qu'on peut dire sur ce périple africain du roi du Maroc Mohamed VI, c'est qu'il touche l'Afrique de l'Est pour la première fois. Le roi du Maroc entame une tournée qui va concerner le Rwanda, la Tanzanie et l'Éthiopie. C'est une région où le Maroc n'avait pas de relations stratégiques traditionnelles avec ces pays, donc c'est une première. Alors pourquoi c'est important maintenant ? Parce que ça intervient dans un contexte où le Maroc a formulé une demande pour retrouver son siège au sein de l'Union africaine qu'il avait quitté en 1984 suite à la démission du Front Polisario. Maintenant, il veut revenir. C'est parce qu'on arrive à la fin de l'aventure séparatiste du Polisario. Il est question de trouver une sortie de crise. Le Maroc propose l'autonomie et il est en train de militer diplomatiquement pour que l'ensemble des pays africains adhèrent à sa thèse et donc le soutiennent dans la solution politique qu'il propose.
Quels sont les différents avantages, en tout cas, que le Maroc pourra apporter ?
De nombreuses sociétés, de nombreuses entreprises utilisent le Maroc comme une espèce de hub pour distribuer leurs marchandises, leur expertise, leur savoir-faire et leur rayonnement sur l'ensemble du continent africain. Sur le plan religieux, alors que le continent subit de plein fouet le radicalisme et la montée de l'extrémisme et la montée de la pensée radicale de l'État islamique, le Maroc se propose d'apporter des solutions d'islam modéré. Le roi incarne l'islam modéré du juste milieu qui est capable d'éteindre la violence extrémiste.
Quelles sont les conditions que le Maroc devra remplir pour réintégrer l'Union africaine ?
Le Maroc veut revenir, mais il veut aussi préparer les conditions confortables, cohérentes, logiques et politiquement pertinente pour son retour. Il ne peut pas cohabiter avec une entité séparatiste non reconnue par la communauté internationale. Le Polisario n'est reconnu que par quelques États africains. Il n'est pas reconnu par l'ONU, il n'est pas reconnu par l'Union européenne, il n'est pas reconnu par le Conseil de coopération du Golfe, il n'est reconnu par aucune autre institution internationale. Donc il est illogique, inadmissible que le royaume du Maroc puisse être dans la même enceinte qu'une entité séparatiste.
Et selon vous, pourquoi les autres pays n'en font pas un problème ? Les autres pays de l'Union africaine qui n'exigent pas en fait ce gel du Polisario ?
L'Union africaine est divisée en deux parties, en deux grosses parties. Une partie qui accueille favorablement le retour du Maroc, qui encourage le retour du Maroc et qui est prête, sinon, à retirer la reconnaissance, du moins à geler l'appartenance du Polisario à l'Union africaine. Et une autre partie minoritaire, mais très activiste, pilotée directement par la diplomatie algérienne. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'Union africaine est devenue, le continent africain est devenu, depuis un certain temps, un théâtre de compétition entre le Maroc et l'Algérie. Les Marocains défendent leur intégrité territoriale, ne reconnaissent pas le séparatisme du Polisario, alors que les Algériens veulent absolument qu'il y ait une entité indépendante, le Sahara, au sud du Maroc. La bagarre, il dure depuis 40 ans. Et ce qu'on voit en ce moment, ce ne sont que les péripéties d'un bras de fer diplomatique et historique entre deux puissances régionales que sont le Maroc et l'Algérie, avec comme théâtre de manœuvre et d'opération l'Union africaine et le continent africain.
le journaliste et politologue Mustapha Tossa. Au Mali, le syndicat national de la santé et de l'action sociale a décrété depuis lundi une grève de 5 jours avec service minimum qui a paralysé les services de santé à Bamako. Les grévistes estiment que l'État malien refuse de satisfaire leurs revendications comme l'intégration dans la fonction publique des contractuels et l'augmentation de diverses primes. Reportage de Kassim Traoré.
Le manque d'affluence au niveau des guichets d'entrée du centre hospitalier universitaire Gabriel Touré de Bamako a une raison. Jimmy Kanté, agent sanitaire au CHU Gabriel Touré de Bamako, membre du comité syndical.
Les revendications tournent essentiellement autour de 3 axes majeurs, c'est-à-dire l'amélioration des conditions de vie et de travail, l'avènement d'une bonne gouvernance dans les structures sanitaires et l'amélioration des conditions de soins, d'accueil et d'hospitalisation des patients qui arrivent dans nos structures sanitaires.
En faisant un tour dans certains centre de santé de Bamako, les patients, accompagnateurs des malades et tout comme les autres usagers de ces centres ne cachent pas leur colère.
Cette grève vraiment nous a donné une grande difficulté. Moi personnellement, j'ai ma femme ici il y a au moins 72 heures comme ça. Maintenant, je vais chercher un médecin ailleurs. Là, c'est pas confortable. Il faut que le gouvernement aille une solution sur ça, sinon nous ne sommes pas à l'aise vraiment.
Ah, vraiment, ce n'est pas facile. Il y a des patients qui souffrent, mais ils n'ont pas le choix. Oui, il y a le service minimum qui est là. En tout cas, moi, je suis arrivé hier seulement. Ils se sont occupés de moi. Chez moi, en tout cas, ça va.
Les centres de santé communautaires observent aussi cette grève. Ce sont les cliniques privées qui ne sont pas concernées. Mais la majorité des Bamakois fréquentent les centres et les hôpitaux publics.
Si les docteurs sont en grève, là, vraiment, c'est pas du tout bon. Les grèves, on ne sait pas que ça soit continuel. Il faut que ça soit limité. Ça, c'est notre fait.
On est malade, on ne sait pas comment on va faire. Moi-même, je souffre tellement. La nuit même, je n'ai pas, même pas dormi. Parce que j'ai la fin que l'on ouvre la baraque de haut. On n'en a pas. Depuis, ça fait 3 jours.
En 7e, 4e jour de grève, les usagers des centres de santé publique pensent que les 5 jours sont trop. Un avis partagé par Jimmy Kanté du comité syndical du CHI Gabriel Touré.
Une journée de grève pour un travailleur socio-sanitaire, c'est excessif. 2 jours, c'est trop. Et 5 jours, c'est vraiment inadmissible. Ça, nous le reconnaissons. Mais comment voulez-vous, lorsque le partenaire en face n'est pas vraiment prêt à soulager sa propre population?
Après ces 5 jours de grève, le syndicat national de la santé et de l'action sociale va tirer le bilan et adopter la conduite à tenir. Au ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, on s'est dit disposé à faire le dialogue avec les syndicalistes. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Restez avec nous à Bamako, au Mali, sur le 102 FM, c'est VOA Afrique, 24h sur 24.
Au Togo, l'année académique a débuté lundi, mais pour certains étudiants, l'inscription dans les universités publiques n'est pas chose aisée. Le processus peut être complexe quand on ne dispose pas de certificat de nationalité. Reportage à Lomé de notre correspondante Kay Lawson.
Alani Nabiou, 18 ans, a obtenu cette année son bac littéraire et veut poursuivre ses études pour devenir interprète. Mais les portes des études universitaires lui semblent être fermées car ce jeune Togolais a des difficultés pour se faire établir son certificat de nationalité, un document indispensable pour s'inscrire dans les universités publiques. Témoignage d'Alani Nabiou.
Je suis Togolais et aujourd'hui j'ai des difficultés pour continuer mes études. Et d'abord pour m'inscrire à l'université, j'ai besoin de la nationalité et sans la nationalité, je ne peux pas m'inscrire à l'université. Si j'arrive à avoir la nationalité, je veux faire l'anglais. J'envisage être un traducteur.
Saisie, la direction de la nationalité a rassuré que le certificat de nationalité sera délivré à Alani Nabiou dans un délai de 15 jours, car des dispositions existent pour prendre en compte des cas types, notamment la facilité octroyée aux nouveaux étudiants. Victoire Chamdia Pacha, directrice du sceau de la nationalité et de l'identité civile.
Les nouveaux bacheliers bénéficient de 2 semaines en moins par rapport aux demandes ordinaires depuis les vacances 2013. Et généralement, nous leur accordons cette faveur jusqu'à mi-octobre, fin octobre pour plus tard. Et après ça, tous les bacheliers en retard verront leur dossier traité comme des dossiers ordinaires.
Par manque de certificat de nationalité, Espoir Prénam a raté une opportunité de bourse. Elle nous raconte sa mésaventure.
Quand j'ai eu le bac, j'avais une moyenne de 12. Et on nous demandait que ceux qui ont eu la mention assez bien puissent apporter leur dossier afin de pouvoir bénéficier d'une bourse pour poursuivre les études au Maroc. Mais il y avait la nationalité qui me manquait. Cela n'a pas été fait à temps et donc j'ai raté la bourse pour le Maroc. Et encore, j'ai raté une formation au campus où aussi je devais utiliser cette nationalité-là.
Pour la directrice du Sceau, le certificat de nationalité n'est pas moins important que l'acte de naissance. Nous retrouvons Victoire Chamdia Kpacha.
La nationalité, je ne dirais pas qu'elle est plus précieuse que la naissance, mais elle est autant précieuse que la déclaration de naissance.
Kailosson, Lomé, VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique au Togo sur Canal FM à Lomé, sur Radio Tchaudio à Sokodé et sur Radio Excelsior à Atakpané.
Présidentielle américaine 2016, le républicain Donald Trump persiste et signe. Il dit qu'il reconnaîtra les résultats du scrutin s'il gagne, mais il se réserve le droit d'introduire des recours. Plusieurs leaders républicains dénoncent cette position. Nous faisons le point avec Timothée Donangmaï.
Entamant une réunion électorale jeudi dans la ville de Delaware, dans l'État de l'Ohio, Donald Trump s'est amusé à créer un moment de suspense. « Je voudrais promettre à tous mes électeurs et partisans et à tout le peuple des États-Unis que j'accepterai entièrement les résultats de cette grande et historique élection présidentielle », a-t-il lancé, avant d'ajouter « si je gagne », après une pause pour accentuer l'effet dramatique de ses propos. Lors du débat de mercredi à Las Vegas, l'homme d'affaires devenu politicien avait dit qu'il attendait de voir les résultats avant de se prononcer. Le candidat républicain maintient ses accusations de fraude électorale sans fournir de preuves.
Plusieurs leaders républicains ont dénoncé cette attitude de Donald Trump, Tim.
Et oui, les autres républicains redoutent l'effet négatif de cette controverse sur leurs efforts pour préserver leur majorité au Sénat et à la Chambre des représentants. Dans une vigoureuse déclaration écrite, le sénateur John McCain de l'Arizona, candidat malheureux à la présidentielle de 2008 face au démocrate Barack Obama, martèle qu'accepter les résultats électoraux s'inscrit dans la tradition américaine. « Je n'ai pas aimé les résultats de l'élection de 2008, mais j'avais le devoir de concéder la défaite et je l'ai fait sans réticence », écrit le sénateur McCain. « Ce n'est pas seulement un geste gracieux, mais aussi le respect de la volonté du peuple américain », a-t-il ajouté. « Vous devez accepter les résultats de l'élection à moins qu'il y ait la nécessité d'un recomptage de voix et à ce stade, nous ne semblons pas nous acheminer vers une élection serrée », a souligné de son côté le stratège républicain Ryan Williams. Dans diverses interviews télévisées jeudi, la directrice de campagne du candidat républicain, Kellyanne Conway, a fait savoir que Donald Trump a simplement mis en garde les Américains contre la fraude électorale. « Il est disposé à accepter les résultats s'il n'y a pas de fraude généralisée », a-t-elle expliqué. Trump acceptera les résultats parce qu'il va gagner, a assuré pour sa part le colistier du candidat républicain, le gouverneur Mike Pence de l'Indiana.
Salut les amis, ici Roger Moutou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, temps universel. Au programme Island Music, de la bonne musique des Antilles et Caraïbes. RM Show, c'est aussi l'interactivité en direct sur Facebook Live. Si vous voulez me voir en direct, écouter de la bonne musique et partager vos idées avec le reste du monde, connectez-vous sur notre page Facebook VOA Afrique à 20h, temps universel. Nous avoir au téléphone, appelez au 001-202-619-3140. Vos SMS et WhatsApp au 001-703-350-3731. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
Ni des moments dans la vie où qu'à sentir abandonné. T'en avais une griffe à abriter pour péguéter là où passer. Où bon vrai rendez-vous à ces places à l'amour où va venir. qu'à tomber, en préféré rentrer, en kérésisé. Pour vrai, si vous cabini,
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. Merci aussi à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sedoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.